surréaliste, notamment après cette discussion très mouvementée qu'il y a eu dans le bureau ovale entre le président Trump, le président Zelensky et le vice-président qui s'est mêlé à cette discussion. On le sait, Zelensky était venu ici pour signer un accord sur les minéraux et les terres rares en Ukraine parce qu'il savait que c'était la première étape vers un accord de paix pour l'Ukraine, parce que pour Donald Trump, les relations internationales sont transactionnelles. Donc, le président Zelensky était prêt à signer cet accord pour ensuite avancer vers la paix. Mais dans le bureau ovale, il a aussi dit qu'il voulait des garanties de sécurité. Et ça, on a senti que ça n'avait pas plu à Donald Trump. Et puis, très vite, le ton est monté. Et donc, on pouvait finalement s'attendre peut-être à ce type de fin pour la rencontre. Parce que pour Donald Trump aussi, les relations internationales passent avant tout par les relations personnelles. Et on a vu donc à la fin de cette réunion dans le bureau ovale un climat extrêmement tendu, et donc on vient d'apprendre qu'a priori le président Zelensky devrait quitter incessamment sous peu la Maison Blanche.
Réservé sur le perron de la Maison Blanche avant le début d'une réunion entre les deux hommes qui a rapidement tourné au vinaigre et à l'humiliation pour le président ukrainien pris sous le feu des critiques de Donald Trump.
Right now, not in a very good position. You've allowed
from
yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it.
From the very beginning of the war,
you're not
Mr.
in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having
not
cards.
Playing cards.
Right now, you
I'm
don't. Yeah,
serious,
you're playing cards.
Mr. President.
You're playing
I'm
cards.
Serious.
You're gambling
the
with the lives of
war.
Millions of people.
You think,
you're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
Décontenancé, humilié, Volodymyr Zelensky peine à se faire entendre pour échanger sur l'éventuel accord commercial sur l'exploitation des minerais stratégiques de son pays. Vous devriez être reconnaissant, lui lance Donald Trump, appuyé aussi par son vice-président. Le ton monte, la scène est sidérante et tourne à l'affrontement verbal. Alors que le président ukrainien affirme vouloir un cessez-le-feu avec des garanties de sécurité pour son pays, Donald Trump s'emporte. La visite avait plutôt bien commencé. Devant les caméras, elle a dégénéré. Le président Zelensky a quitté la Maison Blanche.
Maison Blanche, un accord n'a pas été signé et je viens de voir le président Zelensky il y a quelques minutes quitter la Maison Blanche, une scène vraiment surréaliste. Je vous rappelle qu'il était venu effectivement pour décrocher cet accord parce qu'il sait que c'était le seul moyen d'avancer vers la paix, parce que Donald Trump voulait que les États-Unis soient compensés, c'est ce qu'il dit, pour l'aide qu'ils ont apportée à l'Ukraine. Donc le président Zelensky a joué le jeu, il est venu ici. Donald Trump avait adouci son ton, lui qui disait il y a quelques jours que Zelensky était un dictateur sans élection. Hier, un journaliste lui a dit « Vous pensez toujours que c'est un dictateur ?» Il a dit « Ah, j'ai dit ça, moi, de façon assez ironique, comme Donald Trump le fait souvent. » Et donc, on pensait que cette réunion pouvait bien se passer parce que les deux parties avaient intérêt à cet accord. Et je vous rappelle que en début de semaine, le président français Emmanuel Macron est venu justement pour faire porter la voix des Européens, et ensuite ça a été le Premier ministre britannique Emmanuel Macron qui vient de réagir à ce qu'il s'est passé en disant qu'il faut respecter ceux qui sont depuis le début, ceux qui se battent. Il y a un seul agresseur, a-t-il répété en parlant de la Russie. Et donc tous les efforts diplomatiques finalement qui ont été faits cette semaine, eh bien à l'instant tombent à l'eau parce que eh bien les Européens étaient venus.
Coup trop faible. Non, mais je.
Combien,
non,
on fait 50%.
On fait 35%, 45%. Comment on fait face à un voyou? Comment on réagit face à un voyou? Ce type est un porc. Ce type nous crache au visage, ainsi que toute sa joyeuse bande, sa petite frappe de vice-président qui vient en Europe nous donner des leçons de démocratie. Vous imaginez une seule seconde que la réciproque J.D. Vance, que la réciproque soit vraie, qu'un responsable politique européen aille aux États-Unis leur donner des leçons de démocratie?
Est-ce qu'il faut parler comme lui? Est-ce qu'il faut parler comme
alors,
lui comme
alors,
fait, est-ce que c'est
alors,
le moyen alors, de rivaliser
que,
avec un homme
que,
qui parle
que,
comme ça et qui agit comme
absolument,
tel.
Puisque c'est quelqu'un qui ne comprend que la grossièreté, que le rapport de force et que le langage du fric. Donc, c'est la seule chose qu'on puisse faire, c'est riposter avec les mêmes armes et on a les moyens de le faire.
Aziz Lecor, il y a d'autres personnes, peut-être moins radicales qu'Antoine Bueno, qui disent il faut peut-être essayer de faire davantage de psychologie que le président américain et ne pas, en tout cas, rentrer dans une guerre commerciale qui fera des perdants, finalement, en termes d'emploi, en termes de croissance, des deux côtés.
Alors, c'est toujours risqué de faire de la psychologie en politique. On n'arrive même pas à psychanalyser notre propre président. Donc, le faire avec un président aussi versatile que Donald Trump, ça me paraît risqué. Mais ça pose, je pense, une question fondamentale qui est, est-ce que les États-Unis sont toujours nos alliés? Et ça pose une question, je dirais, de métapolitique, en fait, plus profondément. C'est, on a toujours considéré les États-Unis comme un pays obscien bien avant Trump, qui régnait par la force. Et nous, on se disait, l'Europe de l'Ouest, en tout cas, nous sommes finalement un pays ancien. On croit en la paix perpétuelle. Là, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas possible, que nous n'avons plus d'alliés. Ceux qui étaient assez conscients, évidemment, que la guerre était toujours un risque, parce qu'on voit bien que les positions de Trump sur le commerce sont aussi dangereuses d'un point de vue géopolitique, on le voit bien avec les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ça va se poser la question pour nous, est-ce qu'on change de paradigme et on prend le même paradigme que l'Europe centrale, à savoir, simplement, est-ce qu'on considère qu'on remplace ce qui était le droit et la morale chez nous, voilà, par la guerre et la
force. Exactement.
Donc, et alors, Catherine ?
On ne peut pas ne pas riposter, mais on peut, on doit avoir conscience que ce n'est pas une politique. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on est, en effet, comme vous venez de le dire, on vient de changer de monde, d'une certaine façon. L'Occident qui allait des États-Unis au Japon, au Canada, à l'Europe, c'est terminé. Je crois qu'il faut sans en prendre acte, nouer de nouvelles relations avec le reste du monde, prendre conscience que le Sud a émergé, et quand je dis le Sud, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est l'Amérique latine, il faut s'ouvrir aux autres pays, et
alors,
peut-être qu'une autre mondialisation est possible.
Est-ce que c'est ça la solution, Catherine Trigou, d'aller chercher des accords avec d'autres pays? L'Inde, ce matin, justement, se dit prêt à nouer un accord de libre-échange avec l'Europe, on pense aussi au Mercosur. Est-ce qu'il faut justement isoler Donald Trump et aller chercher d'autres accords?
Alors, je pense qu'il faut nouer des relations avec d'autres pays. Le libre-échange nous a quand même beaucoup fait de mal, c'est-à-dire qu'il a beaucoup abîmé notre industrie, a beaucoup abîmé nos droits sociaux, beaucoup mis en cause les libertés individuelles, notamment au travers de la surpuissance des GAFAM. Donc, je ne suis pas sûre que l'altermondialisation qui est sur la table depuis 20 ans et qui montre sa nécessité, ce n'est pas forcément en revenant au libre-échange pur et dur. Moi, je crois qu'il faut de la régulation, mais par contre, je pense qu'il faut en effet s'ouvrir au reste du monde.
Antoine, vous en avez à dire, parce qu'il y a différents types de diplomatie. On a coutume de dire que la diplomatie, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est une citation assez célèbre. Si on se tient à cette citation, moi, ça me va pour réagir à ça. Et on a beaucoup de choses qu'on peut faire. Oui, il faut changer d'alliance. Là, on est passé du libre-échange au mercantilisme. C'est un système qui est fait de prédation, de rapports de force, d'imposition, dans lequel il n'y a plus aucune autre considération que l'intérêt bien compris des uns et des autres. Le seul discours de Donald Trump, la seule question qui se pose pour chaque dossier, c'est « What can I take ?» Qu'est-ce que je peux prendre? C'est la seule chose. Notre meilleure réponse là pour l'instant, c'est d'aller vers l'Inde peut-être, le Brésil peut-être, le Canada peut-être, le Mexique, mais même vers la Chine. Je pense qu'il faut s'allier avec la Chine. Et ça serait le pire coup qu'on puisse faire.
Ça va pas être facile, ça,
c'est de s'allier avec la Chine. Les États-Unis sont nos ennemis. Soyons très très clairs, ce sont nos ennemis et ils nous ont déclaré la guerre. C'est une guerre.
Plus que la Chine.
Parler à Donald Trump des droits humains. Pardon, je disais que c'est un porc, c'est très insultant pour les porcs. Quelqu'un qui propose une solution pour la Palestine, pour la bande de Gaza, de faire une sorte de déportation de 2 millions de personnes, c'est un porc. Quelqu'un qui, à la question ukrainienne, propose d'entériner un dépeçage de l'Europe, il est en train de nous arriver exactement ce qui est arrivé à la Chine au 19e siècle. Et si on ne réagit pas très vivement, on est mort.
C'est votre